Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À LR comme au PS, on ne sait plus très bien sur quel pied danser, sur quelle base idéologique repartir au combat pour les législatives. La question aurait dû être tranchée après les primaires, c'est le programme du vainqueur qui faisait office de ligne directrice. Seulement voilà, François Fillon et Benoît Hamon auront perdu, et pas qu'un peu. Du coup, on rase gratis. Selon Paris Match, les socialistes, dans leur plateforme programmatique pour le prochain scrutin, semblent avoir oublié de reprendre l'idée du revenu universel. Comme si Benoît Hamon n'avait jamais existé, écrit l'hebdomadaire. Chez les Républicains, on est aussi dans l'opération nettoyage. L'idée générale, explique le journal Le Monde, est de faire disparaître ou d'amender les mesures les plus radicales de François Fillon. Alors voilà qui ne va pas contribuer à éclaircir le débat politique. Les clivages nets et précis du temps où la droite était de droite et la gauche de gauche ne sont plus opérants. Il a en tout cas beaucoup moins été question de ce clivage durant la campagne que de peuple, d'élite, de système, sans que l'on comprenne toujours très bien qui était dedans et qui était dehors. Emmanuel Macron a gagné dimanche, mais ses adversaires n'ont pas tous ni tout perdu. Alors qui sort vainqueur de la bataille des idées ? Eh bien, cette question, nous allons la poser à trois invités. À commencer par vous, Cécile Alduy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de littérature à l'université Stanford, en Californie. Chercheuse associée au CIVIPOF à Sciences Po, vous avez publié au Seuil cette année ce qu'ils disent vraiment les politiques pris au mot. Pour discuter avec vous, Laurent Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, membre de la fondation Jean Jaurès. Vous venez de publier chez Le Mieux Éditeur, La gauche zombie, chronique d'une malédiction politique, un recueil d'un certain nombre de chroniques du quinquennat finissant. Et puis notre troisième invité, c'est Vincent Trémollet de Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef des pages débat et opinion du Figaro, ainsi que du Figaro Vox, ce qui vous donne une activité extrêmement intense, forcément, en ces temps où on essaie de comprendre peut-être où sont les nouveaux clivages, où sont les nouvelles idées, si tant est qu'il y en ait eu durant cette campagne présidentielle. Et je voudrais d'ailleurs, pour commencer, vous poser une question liminaire. On a intitulé l'émission « Qui sort vainqueur de la bataille des idées ?» Mais est-ce que vous considérez, les uns et les autres, que cette bataille a bien eu lieu, Cécile Alduy ?
Elle a eu lieu, mais pas forcément pendant la campagne. Je pense que cette notion de bataille des idées, ou de bataille culturelle, parfois on la nomme comme ça, c'est quelque chose au long cours qui se joue dans l'imprégnation par les mots d'un camp du débat public. C'est quelque chose qui a été pris en main de façon très sérieuse par le Front National depuis les années 90. Et l'idée derrière, c'est qu'on va imposer son vocabulaire et donc son schéma de pensée pour penser les problèmes de la France dans le cas qui nous intéresse. Et une campagne électorale, c'est pas le bon moment pour faire la bataille des idées. C'est avant qu'il faut le faire. La campagne électorale, il y a tout un jeu de stratégies de communication, de polémiques ponctuelles qui sont nées de la campagne elle-même. Et donc, c'est vrai qu'une fois de plus, on a envie de dire, c'est pas le moment où se jouent vraiment les grands débats d'idées. Il y a des débats de programme, mais pas forcément d'idées, ni même de valeurs.
De l'observatoire qui est le vôtre dans les pages débat du Figaro, Vincent Trémollet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Cécile Alduy ?
Oui, en partie. Moi, je pense que les idées ont perdu la bataille des idées pendant la campagne présidentielle. Ça, c'est une certitude. Elles ont été quasiment absentes de cette campagne. Elles ont été remplacées par deux choses. D'abord, les affects. C'est-à-dire que c'est une campagne qui a été dans le pathos très très souvent. Et puis ensuite, elle a été remplacée par la morale. C'est-à-dire que la morale a aboli la politique, parfois pour des raisons légitimes hein, d'ailleurs. Mais la morale d'abord dans l'affaire Fillon, qui a pris le pas sur tout le reste, et la morale ensuite pendant l'entre-deux-tours, où il s'agissait de faire barrage au Front National, et donc le vote avait une vertu morale, non plus une vertu de raisonnement, ou de démonstration, ou d'adhésion. Et donc, on arrive au terme de cette campagne avec un président de la République qui est un héros positif et souriant, mais qui a gagné une campagne négative. Et je pense que c'est un petit peu préoccupant, parce que le corps social français était quand même traversé par un certain nombre de choses dont il aurait fallu parler.
Laurent Bouvet.
Oui, alors moi je suis assez d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit. Simplement, peut-être pour essayer de dire les choses un peu différemment, il y a quand même une présidentielle, c'est toujours un moment, même si c'est assez décevant sur le plan effectivement du débat à la fois pour les raisons qui plus structurelles qui ont été dites sur le fait que c'est pas là que se jouent les grands débats d'idées, etc., la structuration du débat d'idées, et puis les raisons conjoncturelles qui viennent d'être rappelées aussi par Vincent. Mais non, c'est aussi le moment où on voit se restructurer, c'est un moment politique privilégié évidemment dans nos institutions, où se restructurent les clivages et surtout les clivages par rapport à la fois une sociologie et maintenant on voit aussi par rapport à des organisations politiques, par rapport à l'évolution des organisations. Donc c'est sur trois plans que ça se joue, c'est-à-dire que pour simplifier, pendant très longtemps, on a eu une France, on va vraiment être vraiment simplificateur à gros traits. Depuis 2005, depuis le référendum sur le traité constitutionnel européen, suivi quelques années après de la crise, de la grande crise financière, on a eu une France qui s'est dans laquelle les fractures qui sont déjà antérieures, on parlait de la fracture sociale, on se rappelle dans la campagne de 95, Jacques Chirac avait fait sa campagne là-dessus, les fractures se sont beaucoup plus marquées, et on le voit dans les cartes au lendemain des deux tours de cette élection cette année, les fractures se sont beaucoup plus marquées, mais les structures partisanes et le débat d'idées qui va avec ne suivait pas nécessairement ces fractures et cette fracturation à la fois géographique, sociologique, etc. Il y avait des travaux, mais qui restaient quand même assez marginaux. On peut parler évidemment de Christophe Guillouis, qui a été en marge de l'université, quelqu'un, ce géographe qui travaillait sur les politiques locales, etc., qui a vu se dessiner cela. Il n'a pas été tout de suite reconnu, accepté. Il y a eu beaucoup de débats. On a parlé, moi je l'ai fait, notamment après Guillouis, mais en développant de manière plus politologique de l'insécurité culturelle, c'est pareil, ça a été beaucoup débattu, pour dire le moins. On n'a pas vu forcément se mettre en place dans les organisations, dans le débat intellectuel, ce qui se passait dans la société. Or, cette élection, c'est comme un peu pour moi une élection de rattrapage. C'est-à-dire que là, pardon d'être trivial, mais une sorte de vérité des prix apparaît nettement dans les cartes, dans le vote. Alors ça rend pas plus facile la tâche des uns ou des autres, des acteurs, mais ça rend plus lisible de véritables clivages qui ne correspondaient plus à la division classique héritée peut-être d'une période précédente.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il a peut-être manqué d'une forme d'appropriation de ces nouveaux clivages dans les organisations politiques pour produire quelque chose qui corresponde justement à ces nouvelles fractures, Cécile Aldui?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un retard des organisations politiques parce qu'il y a des fractures internes aux organisations politiques sur ces questions. Et évidemment, le référendum de 2005 était le moment clé qui a fait émerger ces divergences au sein même des partis traditionnels. Mais dans cette campagne de 2017, il y a quand même, alors je ne sais pas si ça rentre dans la bataille des idées, mais il y a aussi un mouvement, celui des Insoumis, qui a tenté de coller à la carte électorale et à la carte sociologique qui vient d'être décrite, en reprenant à la fois un vocabulaire et surtout un type de rhétorique, la rhétorique populiste, pour essayer de coller à cette division qu'on a décrite sans la nommer, qui est celle d'une France qui serait opposée à la mondialisation, pour dire les choses simplement, et une autre qui serait plus optimiste par rapport à l'ouverture à la fois au marché et au monde, et qui serait celle représentée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et ce que je veux souligner ici, c'est que ce n'est en fait, ce clivage, c'est pas forcément un clivage d'idées. Comme ça vient d'être souligné, c'est aussi la politique des émotions qui est dans cette sociologie électorale. Il y a la France du ressentiment, il y a la France de l'optimisme. Et c'est très remarquable que dans cette campagne électorale, les candidats ont autant joué sur les émotions de leur électorat cible, que ce soit la colère, la rage, etc., plutôt que sur des concepts politiques, que ce soit l'égalité, la liberté, ou des choses un peu plus qui ont un peu plus de poids politique.
Alors, dans le petit montage que je vais vous faire écouter à présent, et avant de poursuivre la discussion, vous allez me dire si vous entendez davantage d'émotions que d'idées, ou l'inverse. On a plutôt fait le pari avec Milena Eli, qui réalise l'émission, de trouver quand même quelques idées qui nous semblent avoir marqué, malgré tout, cette campagne électorale. Eh bien, écoutez, et puis vous me direz ce que vous en pensez.
Il faut aujourd'hui renforcer nos frontières, avoir une politique réaliste en matière migratoire et en même temps faire notre devoir. Et en même temps d'être à la hauteur de nos principes.
Mais en même temps.
Et en même temps.
Tu
Je propose une baisse de 500 000 emplois publics sur les trois fonctions publiques que je rends possible par une augmentation du temps de travail.
Le revenu universel, chaque personne percevrait ce revenu-là. Quel est l'objectif ? C'est qu'on soit moins dépendant du travail.
Le cœur de la stratégie de la révolution citoyenne que je prône, la révolution citoyenne, c'est la reprise du pouvoir par les citoyens sur leur vie. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est radicalement nouveau.
C'est vrai qu'il y a un côté escroquerie, quoi. Enfin, on voit des gens complètement intégrés dans le système, qui vivent du système, qui vivent très bien du système, qui se protègent d'ailleurs des lois du système. Parce que Le Pen, quand elle dit « moi, je vais pas répondre à la convocation », ça, nous, on peut pas faire ça.
Moi, que les choses soient très claires, je pense que l'euro est mort. Est-ce qu'on attend le chaos ? Est-ce qu'on attend la panique financière ?
L'hymne à la joie qui devient l'hymne officiel de ce nouveau quinquennat qui n'a pas encore tout à fait démarré puisque Emmanuel Macron n'a pas encore été investi. Vincent Trémollet de Villers, est-ce que vous avez surtout entendu des idées, des concepts, des émotions dans ce regard forcément très subjectif
sur ce qui s'est passé ? Il y a deux niveaux, en fait. Il y a, comme l'a très bien dit Cécile Alduy, le niveau de l'estrade avec la rhétorique et l'émotion, et une symbolique quand même assez pauvre, avec cette phrase extraordinaire d'Emmanuel Macron, parce que c'est notre projet qui est devenu le slogan d'une campagne, et on ne sait pas ce que... C'est le projet qui compte, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis quand on est rentré dans les débats, alors on arrivait à quelque chose qui fait songer au dernier livre d'Olivier Rey, le philosophe, qui s'appelait « Quand le monde s'est fait nombre », c'est-à-dire que là, on était dans le chiffrage, et il fallait que chacun soit une précision extraordinaire sur le nombre de millions, de milliards, sur chacune des propositions. Donc on a eu ces deux niveaux, un discours assez sec et technocratique, et puis, si on veut être un peu dur avec eux, quand il faut le faire pour la foule, parce que ça fait partie du métier, on balance des symboles, mais des symboles très appauvris, je trouve, par rapport à ce que la politique a pu offrir.
Y compris dans l'entre-deux tours, pour vous, on a quand même l'impression que là, les clivages étaient réels. En tout cas, on présentait vraiment Emmanuel Macron et Marine Le Pen deux propositions politiques radicalement différentes, mais notamment sur l'Europe.
Sur le plan intellectuel, l'entre-deux tours... À montrer ce que pourrait devenir une société absolument binaire. C'est-à-dire avec d'un côté le camp du bien, de l'autre les forces du mal, les progressistes contre les conservateurs, et sans qu'il n'y ait jamais de travaux, de nuances, de réflexions. Et encore une fois, un travail sur une émotion beaucoup plus que sur la raison. Donc ce clivage, d'ailleurs Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont tenté de l'installer pour 5 ans. Heureusement, ça ne sera pas le cas, parce que vu la prestation de Marine Le Pen dans le débat, on a vu qu'elle ne pouvait être ni chef d'opposition ni force d'alternance. Et donc ça va permettre de restaurer une réflexion un peu plus soutenue que celle que nous avons eue pendant ce moment-là.
Cécile Alduy, ensuite Laurent.
Oui, alors en fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il y a des idées, mais il n'y a pas de débat. Mmh. C'est-à-dire que les adversaires ne se sont pas confrontés les uns les autres dans une discussion avec argument contre argument. Chacun avait sa petite idée, donc le revenu universel pour Benoît Hamon, la révolution citoyenne pour Jean-Luc Mélenchon, mais les autres n'en parlaient pas.
Il y a quand même eu l'euro dans l'entre-deux-tours.
Il y a eu l'euro dans l'entre-deux-tours, mais c'est bien la seule chose en fait.
Mais il y avait quand même un des deux candidats qui n'était pas capable de défendre son
exactement,
point de vue.
Exactement, tout à fait. Et même le fameux débat du deuxième tour n'a pas été un débat, c'était une altercation. Et ça, c'est ce qui m'a frappé dans toute cette campagne, c'est que chacun était dans son petit couloir sans qu'il y ait d'échange. Et alors, c'est certainement lié au fait que, effectivement, la politique des émotions a beaucoup pris le pas sur la politique des idées, et aussi parce que on est dans cette recomposition du champ politique où, au lieu d'avoir un quinquennat qui s'achève, un candidat sortant dont on discute le bilan, et donc il y a un travail d'argumentation et de contre-argumentation, chacun était déboussolé par l'absence d'opposant principal. Il y avait trop de candidats dans une position potentielle de leadership et personne n'a réussi à désigner avec qui il voulait parler.
Est-ce que vous avez quand même repéré dans cette présidentielle, même si les mouvements étaient à l'œuvre auparavant, Laurent Bouvet, des clivages idéologiques quand même assez forts? C'est vrai que, enfin, moi, pour avoir lu et écouté un certain nombre de mes confrères et de politologues, on entendait quand même beaucoup dire que justement sur la question européenne, on avait vraiment, voilà, la France du oui versus la France du non, la France d'en haut versus la France d'en bas. Enfin, c'était quand même des choses qui sont assez structurante normalement.
Oui, et puis il y a un autre indicateur quand même intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de chercheurs, beaucoup d'universitaires, d'intellectuels qui se sont engagés dans cette présidentielle. C'est-à-dire, non plus simplement, et moins d'ailleurs, que dans d'autres, sur le mode des tribunes collectives signées, les artistes et les intellectuels associés pour tel candidat, les comités de soutien comme on faisait traditionnellement, mais qui se sont engagés derrière des candidats dans l'élaboration du programme, le soutien à ce programme. On a vu en particulier du côté de Benoît Hamon même revendiquer ce pari de l'intelligence, etc. Or,
Pourquoi ça n'a pas ressorti davantage.
C'est intéressant, justement. Et on le voyait aussi du côté de Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, il y avait des éléments intéressants. Ça dénote un double problème, si pour aller vite. Hein. Il y a un problème d'abord du lien entre intellectuel et politique, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un moment où le monde universitaire, la recherche, notamment en l'occurrence les sciences économiques, sociales, les sciences humaines de manière très générale, sont de plus en plus spécialisés, sont de plus en plus portés vers des objets qui ne sont pas généralisables à la politique. Là, il y a eu un apport d'un certain nombre de théories, d'un certain nombre d'idées, revenu universel évidemment, sur la question de la fin du travail hein, chez Benoît Hamon, sur des questions écologiques, hein, il y avait tout un ensemble de choses, de la même manière aussi un peu chez Jean-Luc Mélenchon, on pourrait détailler. C'était moins le cas autour d'Emmanuel Macron, même si dans la politique économique proposée par Emmanuel Macron, il y a une théorie, il y a beaucoup de théories économiques, il y avait Philippe Aguillon, il y avait des gens qui sont des théoriciens, des économistes reconnus derrière. Et on peut aussi le dire en partie pour l'histoire, par exemple derrière François Fillon. Il y avait une vision historique, une vision contradictoire avec un certain nombre d'autres. Donc on voit qu'il y avait des travaux, etc. Mais ces travaux ne sont pas... utilisés, c'est soit directement de la théorie venue d'économistes, on pense évidemment au premier chef à Thomas Piketty, soit du travail de think tank. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement d'intellectuels qui vont être aux côtés des candidats et qui vont leur servir à construire autour de leur programme, ça a été dit, sur les chiffres, sur un certain nombre d'idées qui peuvent être contradictoires ou qu'on peut partager. Hein, l'avenir de la planète, est-ce que c'est un enjeu et un clivage essentiel? Après, évidemment, quand on commence à détailler des mesures, là oui, mais ça reste très programmatique. Il n'y a pas cette instance, si vous voulez, de généralisation qu'il pouvait y avoir un moment avec des grandes figures intellectuelles qui s'engageaient et autour de partis ou de candidats lors d'élections et qui structurer un peu un projet général autour d'une grande idée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Donc je pense qu'il y a aussi un manque du côté intellectuel, si on veut.
Ah, oui, mais il y a aussi là on touche à un problème profond de cette campagne sur lequel Cécile a lui a travaillé, mais quel rapport au langage et à la sémantique. Parce qu'en fait, les travaux des intellectuels ont été repris, notamment les vôtres. Je pense que l'insécurité culturelle a été une des formules employées par énormément de candidats, même la France périphérique de Christophe Guillouis. Mais très souvent, on a eu l'impression que les mots étaient prononcés pour une séduction immédiate, comme une forme d'algorithme qui générerait en temps réel ce que veulent entendre les gens, mais sans qu'ils aient de véritables contenus. Et donc il y a eu une dissociation.
C'est déjà le cas en 95.
Oui,
hein, avec
mais là, à un point où on a l'impression qu'il y a un certain nombre de mots-clés qu'il faut avoir prononcés. Comme ça, on aura contenté le public. Mais ce que contiennent ces mots-clés, je ne sais même pas si ceux qui les prononcent. Le cas extraordinaire, c'est quand même le cas de François Fillon, qui est devenu malgré lui le candidat du conservatisme. François Fillon n'est pas conservateur. Il l'a dit à énormément de reprises, mais du fait de son apparence physique, de son histoire, de ses origines, a été projeté sur lui un certain nombre de choses qu'au fait, qu'il a reprises finalement, puisque ça lui faisait des voix, mais au fond, peut-être qu'il n'y croyait même pas.
Cécile Alduévo, qui examinait justement l'utilisation des mots chez les politiques, est-ce que vous partagez ce constat? Et ces mots-clés, quand ils sont utilisés par différentes personnalités politiques qui ne sont pas censées être du même bord, est-ce que c'est parce qu'elles ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière ou parce qu'elles y mettent des choses radicalement différentes? Je pense par exemple à la question du peuple, je pense à la question des élites, je pense à la question du système. Le système, on n'avait que des candidats qui étaient en dehors du système.
Combien d'émissions avons-nous fait sur le système, n'est-ce pas? Mais oui, alors je voudrais tout à fait rebondir sur ce qu'on vient de dire. Et l'exemple le plus frappant, c'est quand même Emmanuel Macron qui a produit une offre politique basée sur l'analyse de la demande. Mmh. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que le macronisme, parce que lui-même l'a élaboré en fonction de l'analyse de méga-données collectées pendant deux ou trois mois pendant l'été 2016. Et c'est, je crois, la première fois qu'on a un mouvement politique qui se fonde sur la demande plutôt que d'offrir un projet et après de voir s'il y a du répondant en face. Du coup,
en économie, hein, c'est ce qu'on appelle une approche justement plus libérale. Enfin, le tournant social libéral de François Hollande, il était lié aussi à cette
oui, mais
façon
là, je parle,
de faire.
Je parle de la demande politique,
oui,
c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le marché des biens, mais sur le marché des idées.
Non, mais je veux dire, ceci explique enfin, peut-être
tout
cela.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais et du coup, dans le contexte donc de cette nouvelle stratégie électorale qui s'appuie sur la demande plutôt que sur l'offre politique, on ne sait plus très bien ce que ces mots-clés, liberté, protection, ou chez d'autres peuples, et même patriotes chez Emmanuel Macron, veulent dire parce qu'ils ne sont pas ancrés sur une architecture, sur une colonne vertébrale idéologique qui s'est construite au fil des années par tout un corpus de textes. Et donc c'est pour ça qu'on ne sait plus finalement, quand Emmanuel Macron parle de liberté, qu'est-ce que ça désigne ? Est-ce qu'il y a toutes les libertés ? Et surtout, comment il va les conjuguer avec d'autres mots-clés qui ont été aussi servis à l'électorat ? Après, pour les autres, c'est vrai qu'il y a eu dans cette campagne une sorte de diffusion, voire de confusion, au sens où tout le monde a ressorti les mêmes mots-clés pratiquement, avec des nuances quand même. Hein. L'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique, personne n'en a parlé à droite. Et pourquoi ? C'est pas une priorité. Et inversement, l'immigration, c'est pas du tout une priorité à gauche. Donc il y a quand même encore des clivages qui sont vraiment sur cet axe droite-gauche qu'il faudrait pas jeter comme ça immédiatement aux orties. Mais lorsque Manuel Valls parle d'assistanat, on entre dans, je sais pas si c'est une stratégie politique ou rhétorique, d'emprunt d'un vocabulaire très connoté idéologiquement à un adversaire, normalement, qui est le parti Les Républicains dans ce cas précis, sans intégrer ce mot-clé dans une logique propre d'un nouveau appareil du Parti Socialiste pour penser le monde. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est sur une rhétorique des mots et pas sur du discours. Un discours, ça construit du sens. Les mots tout seuls, sans qu'il y ait une réflexion étayée derrière qui leur donne sens, qui leur donne des nuances, ça devient du marketing.
Petite incise avant de vous faire réagir, Laurent Bouvet, et pour ne pas me prendre un flot de mails sur la question de l'offre et de la demande. Je pense que c'est aussi lié à la fatigue, mais c'est évidemment l'inverse qui est à l'œuvre s'agissant de la politique économique. Laurent Bouvet.
Oui, justement là-dessus, et puis sur la triangulation, ce qu'on appelle la triangulation, aller chercher chez l'adversaire des termes pour essayer de justement déstabiliser l'axe politique. Sur cette question du rapport idéologique sociologique, c'est très intéressant parce que ce que dit Cécile Alduis sur la manière dont Macron a construit son offre politique à partir de rien, c'est ce que font en fait les partis depuis très longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, au Parti Socialiste, moi je connais mieux ce parti, j'ai depuis beaucoup plus longtemps, donc je peux mieux en parler que d'autres, mais enfin les processus sont les mêmes. C'est qu'on construit quand même beaucoup son programme, son projet politique, son programme pour des élections en fonction de sa sociologie supposée. C'est-à-dire que le Parti Socialiste, là, quand il y a une alliance avec...
Je sens que vous allez nous parler du fameux rapport Terra Nova.
Oh non, peut-être pas. Je vais voir. Je vais voir. Écoutez, vous, surprise.
Je vous tente.
Mais il y a l'idée que on suppose qu'on a, par exemple, le vote enseignant. Alors, quand on a aussi une alliance avec les écologistes, ce qui a été le cas, on a une offre qui correspond aussi à ce milieu-là. Un peu de la même chose que ce qui a été fait à droite. On a vu que cet effet dans les primaires était très fort, évidemment, puisque les primaires objectivisent ce processus. Mais c'est classiquement ce qui se fait. Le retournement de ça, c'est-à-dire proposer, avoir un projet très fort et construire ensuite la sociologie politique en allant chercher les électeurs et en les convainquant, ça, c'est plus rare. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'a fait Emmanuel Macron avec En Marche, évidemment, il y a eu cette grande marche, ce recueil de données, mais finalement, les données ont correspondu à ce qu'était Emmanuel Macron comme ministre de l'économie. Son projet aujourd'hui, il n'est pas très différent de ce qu'a incarné Emmanuel Macron dans son action au ministère de l'économie, à travers la loi Macron, à travers ses déclarations. Donc, jusqu'où et quand ce recueil de données, cette initiative, cette participation dont maintenant tout le monde parle, etc., n'est pas en fait qu'un processus toujours déjà là de légitimation de projets qui sont des projets qui correspondent soit à des structures idéologiques préalables, soit à des héritages comme dans les partis, soit finalement à une identité politique que veut proposer un candidat. Or, on a là quelque chose qui est assez stable finalement dans le temps, et cette élection n'a pas donné lieu à beaucoup d'autres choses. Je termine juste sur un point, par exemple, sur ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Lui, Jean-Luc Mélenchon, ça j'ai regardé ça de très très près, a changé l'axe de sa campagne par rapport à 2012. Il a appris... et en ouvrant au peuple et non plus simplement à la gauche, en mettant les drapeaux français en avant plutôt que les symboles classiques de la gauche, le drapeau rouge, etc., les allusions très classiques, en mettant la Marseillaise en avant, en se voulant le candidat du peuple au sens révolutionnaire, au sens français, républicain et révolutionnaire, il a déporté l'axe de sa campagne. Il y a eu des critiques au début en interne de ce qu'il a fait. On l'a traité, y compris dans la nébuleuse de la France insoumise, qui dérivait vers le nationalisme, etc. Donc lui, il a changé, et c'est une offre très 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 importante, mais qui correspond aussi à ce que lui a éprouvé pendant 5 ans dans son rapport aux Français. Donc la construction d'une offre est toujours évidemment fonction d'une demande, mais en même temps elle peut influer sur cette demande aussi, et l'occasion de la présidentielle, c'est justement quand cette offre va rebattre la demande pour la période qui s'ouvre. Donc c'est plus compliqué que juste ce qui a été dit tout à l'heure.
Et c'est peut-être ce qui est à l'œuvre d'ailleurs en ce moment, quand on voit la façon dont, et au Parti Socialiste justement, et chez les Républicains, on est en train de bâtir les plateformes pour les législatives. On voit bien que des projets qui étaient quand même assez marqués idéologiquement, celui de François Fillon et celui de Benoît Hamon, sont partiellement abandonnés pour aller vers quelque chose. On ne sait pas très bien si c'est pour aller un peu plus vers du macronisme ou quelque chose en tout cas d'un peu plus flou.
Plus centriste. Ouais.
Plus centriste, Vincent Trémollet de Villers.
Oui, il y a quand même un élément dans cette bataille des idées qui est important dans cette campagne, c'est que la forme a primé sur le fond, et notamment dans le parti d'Emmanuel Macron, puisque la geste macronienne, le mouvement, le En Marche, était, on ne disait pas vers quoi on marchait, c'était le mouvement qui était lui-même l'idée. Et là, il y a quelque chose de passionnant et d'un peu déstabilisant pour la vieille politique, c'est que Emmanuel Macron a emprunté au code des grandes boîtes californiennes des succès extrêmement soudains, extrêmement important et spectaculaire. C'est un peu le Mark Zuckerberg du suffrage universel, c'est-à-dire qu'il part de rien il y a 3 ans et que ça monte, c'est la figure de l'éternel gagnant avec une rhétorique empruntée à l'entreprise. Il y avait un certain nombre de meetings, on ne savait pas si on était au kick-off d'Amazon ou à une réunion politique, et ça c'est absolument nouveau, ça rejoint ce que disait Cécile Alduy sur le data qui a été fait sur le recueil des données, et c'est hors de la politique. On l'a vu au Louvre le soir, où on ne savait pas si c'était la fin d'une élection présidentielle ou un bel événement organisé par une immense entreprise. Quand le discours s'est terminé, les gens sont partis. Il n'y a pas eu la ferveur qu'il y a d'habitude avec une famille politique qui dit on a gagné, on a fait perdre les autres, c'est notre tour, etc. Et donc, cette forme qu'a inventé Emmanuel Macron, dégagé de tous les codes politiques habituels et qui emprunte aux entreprises numériques, elle va maintenant retomber dans la politique concrète, puisqu'il va falloir nommer, il va falloir choisir, il va falloir donner des investitures, et c'est là on va voir si elle peut s'adapter à ce qu'est notre système français.
Est-ce que vous seriez la comparaison un peu plus loin encore avec Mark Zuckerberg, je rappelle donc le fondateur, le créateur de Facebook, en imaginant justement le macronisme et cette nouvelle grande famille politique comme un grand réseau social qui n'est pas défini justement politiquement, qui est une mise en relation de gens, mais où ça s'arrête un petit peu là.
Et on ne sait pas où sont les limites. Pendant son discours, il y a eu l'Europe et puis ensuite le monde, et puis avec des aspects même dans la bienveillance, si vous voulez. C'est à la fois Zuckerberg ou Larry Page, c'est carnassier et bienveillant. C'est les deux à la fois. Et le macronisme, il y a de ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je ne sais pas si les auditeurs ont vu le documentaire hier sur TF1, où pareil, c'était une épopée politique, mais ça aurait pu être le récit d'une épopée économique ou numérique, telle qu'on a pu le voir au cinéma, notamment sur Facebook.
Cécile Alduy, face à ces lignes un peu floues, est-ce qu'en face, il y a quand même des offres qui restent malgré tout très claires, très faciles à déterminer, très structurées, ou bien est-ce que vous voyez finalement dans cette tendance à l'œuvre quelque chose qui se diffuse à l'ensemble des formations politiques?
Oui, alors,
le Front National, par exemple,
oui,
on a quand même l'impression que le Front National est presque redevenu le Front National, d'ailleurs, dans l'entre-deux-tours. Oui. C'est-à-dire que...
Pour abonder sur ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, la rhétorique émotionnelle d'Emmanuel Macron, c'est « je vous aime », donc le « like ». de Facebook est totalement réintégré dans le discours politique. C'est un discours dépolitisé, en fait, les discours de meeting d'Emmanuel Macron.
Ça n'avait pas marché à l'époque avec Ségolène Royal, qui était aussi quand même dans cette approche-là, hein, dans certains de ses meetings.
C'était avant les réseaux sociaux.
Mais c'était trop tôt. C'était à la fois peut-être. Trop tôt, et aussi elle avait une conception différente de la démocratie participative, c'est-à-dire qu'elle voulait faire remonter des idées depuis le terrain, alors qu'Emmanuel Macron n'a fait remonter aucune idée depuis le terrain. Il a analysé comment les gens nommaient leurs problèmes. Donc c'est pas qu'il a pris ses idées ou son programme de ces données, c'est la manière de les mettre en mots qu'il a analysé dans ces données. Pour les autres, non, les choses sont pas si évanescentes que ça. Là, on est dans un moment de grande confusion, puisqu'on est à l'aube d'une législative très compliquée pour tout le monde, avec des déceptions abyssales pour un certain nombre de candidats et de partis, des défections, des trahisons, etc. Mais si on prend un peu de recul, l'offre politique, il y a encore, on va dire, 4 mois, elle était claire. François Fillon avait un discours extrêmement constant, construit, structuré. C'est la même chose au Front National.
Il disait même qu'il avait gagné, lui, la bataille des idées. Hein. Après sa victoire aux primaires, j'ai relevé cette phrase. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de victoire électorale sans victoire idéologique. Je pense avoir remporté la victoire intellectuelle. Et c'est vrai, à ce moment-là, personne ne lui conteste ça. Hein.
Tout à fait. Bon, en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui l'avait dit avant lui, cette phrase. Hein, c'était Gramsci. À ce moment précis de la campagne, raison, au sens où il avait emporté dans les urnes de la primaire sur un programme qui était fondé sur les valeurs, sur une construction très solide d'un projet de société, libéral économiquement, quand même conservateur socialement, quelles que soient ses opinions sincères, authentiques, totalement structuré. En face, le Front National, lui aussi, un parti d'une extrême constance dans son discours et sa vision du monde. Et après, au sein du Parti Socialiste, un clivage interne qui aurait dû être résolu par la primaire et qui ne l'a pas été, avec un Benoît Hamon qui était sur des constantes de principes et de valeurs de la gauche d'antan, qui n'étaient pas très surprenantes. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est l'élection d'Emmanuel Macron qui rebat les cartes des organisations partisanes. Après, on va voir comment ça va se décanter du point de vue des idéologies qui étaient autrefois portées par ces partis.
Alors, finalement, une des questions ce soir, c'est de savoir si c'est effectivement la victoire d'Emmanuel Macron qui rebat les cartes, ou si c'est parce que les cartes sont rebattues que Emmanuel Macron...
Aussi, bien sûr,
on ne saura jamais
sûr.
Vraiment, parce que les circonstances politiques qui ont amené Macron et à être candidat et à l'emporter, on voit bien que parfois, ça s'est joué à pas grand-chose, Vincent Trémollet et Laurent Bouvet.
Oui, c'est-à-dire que la victoire d'Emmanuel Macron pose la question, en fait, de l'idéologie politique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'elle... comme elle est sortie de la politique, que c'est un choix volontaire de sortir de la politique, et si on lui donne raison pour aller vers le pragmatisme, la bienveillance, la proximité, ça renvoie au monde d'avant, au monde d'hier, les débats qui pouvaient opposer les différentes familles de la gauche, les différentes familles de la droite, et c'est ça qui est un peu déstabilisant pour les gens qui ont la passion du mouvement des idées dans cette élection, c'est que les idées en sont absentes et non pas et que c'est assumé par ceux qui défendent ce projet. C'est-à-dire que les idées appartiennent à une vieille politique qui est inefficace si l'on prend leur point de vue.
Laurent Bouvet ?
Il y a quelque chose qu'on va vivre en temps réel, qui va être une expérience assez nouvelle, qui va être de savoir si la politique aujourd'hui, ce n'est pas finalement l'ère de la fin des idées en politique. C'est-à-dire qu'on arrive à une forme de pragmatisme et d'un véritable pragmatisme, pas au sens du pragmatisme blairiste, qui était une refondation idéologique très, très pensée, très, très articulée, etc. Mais une forme de pragmatisme. Alors, dans ses pires aspects, marketing, on l'a signalé sur les mots, gestionnaire, on l'a dit aussi, managérial, etc. Bon, qui rejoint aussi la société telle qu'elle est, parce que la société telle qu'elle est, en sa réalité, comme dirait l'autre. C'est aussi une société où les pratiques dans les entreprises managériales, etc., où il y a une, ce qu'on a appelé un moment, moi j'aime pas trop cette expression, mais la quête de sens, où dans les entreprises, où tout le monde maintenant fait du coaching, on essaye de savoir où on va, ce qu'est l'identité de l'entreprise, etc. Donc on voit bien que les sociétés sont comme les sociétés au sens commercial, nos sociétés. Donc il y a quelque chose là qui est assez logique si on regarde une évolution sur 30-40 ans, le dépassement du new public management, du management public, du nouveau management, dans tout l'État, dans tous les services publics. Tout ça fait sens aujourd'hui sur le fait que on ne peut plus traiter des idées politiques comme on en traitait avant. Alors c'est très dommage quand c'est son métier, comme moi, le professeur qui enseigne les idées politiques. C'est bien, on est dans un monde un peu, on fait de la paléologie, mais enfin, donc la question qui se pose quand même, c'est est-ce que ça ne va pas mieux fonctionner? Parce que si Emmanuel Macron, majorité ou pas, on n'en sait rien pour le moment, mais réussit mieux que les deux candidat, je m'arrête juste aux deux derniers, des deux quinquennats, Sarkozy-Hollande, à résoudre un certain nombre de questions dans la société française sur les questions économiques et sociales, s'il arrive à résoudre une partie de la question du chômage, s'il arrive à résoudre une partie de la question du pouvoir d'achat, s'il remet plus de liens sociaux, s'il arrive à rendre plus cohérent le commun français, etc., simplement par son pragmatisme, sans avoir des grandes idées, une grande vision, une structuration intellectuelle, etc., de tout cela, eh bien, on en sera pour nos, pour notre paléontologie. C'est-à-dire que là, on est sur un élément, on est rentré dans une nouvelle ère politique. Le populisme en est un élément très très fort. Le populisme, c'est pas une idéologie, hein. Le populisme, c'est à minima, comme disait André Taïeff, c'est un style politique. Mais on est peut-être dans le monde de la fin des idéologies, là véritablement avérées, pas du néolibéralisme comme idéologie de la fin des idéologies, mais d'une déperdition de toute forme de lien à des constructions intellectuelles sur le réel, etc. Donc c'est très intéressant, une sorte de pur aristotélisme sans platonisme. Voyez.
Alors acceptons cette double hypothèse, disparition des idées du débat politique et réussite d'Emmanuel Macron sur son quinquennat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bataille des idées, elle ne se jouera plus, enfin elle se jouera où et elle aura quel intérêt?
Bah, ça dépendra du score du Front National aux prochaines présidentielles, c'est-à-dire que ça c'est un grand débat et on va pas répondre en deux minutes, mais une des questions c'est de savoir si cette vague populiste qui n'a pas été résolue par le vote de dimanche va continuer et perdurer ou non, même si la situation économique s'améliore. J'ai envie de dire, ce pragmatisme c'est une idéologie, simplement ça c'est d'ailleurs un courant philosophique américain, le pragmatisme, et on le retrouve justement dans ces start-up américaines. C'est l'idée que dès qu'il y a un problème, il y a une solution, ça va être une application sur un smartphone et on va créer une société sans friction. Est-ce que cette société sans friction, elle n'a pas des conséquences sociales, culturelles, etc.? C'est une autre question. Mais bien sûr, moi je souhaite que ce pragmatisme soit efficace. Je pense que ça ne résout pas la question de comment on pense la société. Les solutions économiques ne résolvent pas la question de comment on fait société, quelle est la place des jeunes, des vieux, des nouveaux arrivants, etc. Et du coup, la question culturelle va perdurer au-delà des résultats économiques.
Grâce à Tremolévière.
Et moi, ce que je crains, c'est que le débat soit réduit, parce qu'il faudra faire semblant d'avoir un débat d'idées, et qu'il soit réduit à ce qu'il est, c'est-à-dire une espèce de petite valeur ajoutée intellectuelle, avec notamment cette dichotomie installée pendant cette campagne sur les ouverts et les fermés, qui est quand même le niveau zéro de la conversation politique, où il y a le parti des gens ouverts et le parti des gens fermés. Et ce que l'on peut craindre, comme en fait c'est considéré, comme l'a très bien dit Laurent Bouvet, comme quelque chose d'accessoire, c'est que ne soit plus utilisé que pour des séances d'indignation et d'incantation, et que donc le travail en profondeur, le travail de nuance, le travail d'inquiétude qui fait la vie culturelle et qui permet de penser le monde dans lequel on vit, soit remplacé par une dialectique un peu à front de taureau.
Eh ben écoutez, essayons de démontrer le contraire en continuant par exemple à faire cette émission ou à lire les pages opinion du Figaro. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés de manière très différente de ce que j'ai entendu, je dois dire, depuis dimanche soir sur cette élection présidentielle. Et c'était très intéressant, je dois dire. Merci Laurent Bouvet, Cécile Alduy et Vincent Prévonnet de Villers. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer et Louise Fuseau. Émission réalisée par Milena Heilig. À la prise de son, Jean-Frédéric. Demain, nous allons continuer à parler de cette présidentielle et du nouveau président Emmanuel Macron. De quel libéralisme Macron est-il le nom? Ce sera à partir de 18h20 demain. Dans un instant, vous allez retrouver Mathilde Serrel pour Ping Pong avec de la musique ce soir, Mathilde.
Oui, Ping Pong musical. Les invités sont déjà en train de tapoter la table de Ping Pong avant de se mettre au piano avec l'artiste européen, je vous le disais tout à l'heure, mais suédois néanmoins, Tjeje Johansson, qui fête ses 20 ans de carrière. Et une sieste acoustique pour se reposer un petit peu de cette campagne avec Bastien Lallemand.
Eh bien, on vous retrouve dans un instant après le rappel des titres.